Et donc le collectif ACDC, pour la troisième fois, vous présente une note sur l'évolution des statistiques concernant le chômage. Aujourd'hui, on a focalisé notre travail sur l'assurance chômage, sur l'indemnisation du chômage, plus exactement. Donc l'UNEDIC a annoncé la semaine dernière des prévisions budgétaires excédentaires pour 2007. Je crois que c'est 2,5 milliards d'euros d'excédent. Ça pourrait paraître une bonne nouvelle du point de vue budgétaire. Malheureusement, ce que montre l'étude des données publiées par l'UNEDIC...
Non, ça c'est 2006.
2006. 2007. Ça fait beaucoup. Ce que montre donc l'étude des données publiées par l'UNEDIC, c'est que ça résulte, comme Pierre Confialdi va le montrer, d'une restriction assez importante des droits à indemnisation sur la dernière période. Donc, voilà, je vais passer la parole à Pierre. Ensuite, on répondra aux questions et on pourra aborder la question notamment de la controverse sur le taux de chômage BIT et la publication ou non des résultats de l'enquête emploi 2006.
Bien, bah, comme vous pouvez le constater...
Bonjour.
Combien de
café?
Bon, café pour tout le monde.
Levez les mains. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Dont une noisette.
14, dont une noisette. Voilà.
Donc après cette pause publicitaire... donc cette note s'intitule des chômeurs en déficit, puisque, bon, comme vient de le dire Thomas, Sinuédic affiche un excédent qui est en croissance. La conséquence pour les chômeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de chômeurs indemnisés et que le niveau de leurs allocations stagne ou diminue. Donc on a repris dans cette note les données publiées par l'UNEDIC. La première chose, je pense, qu'il faut dire, c'est que si on prend les données brutes, donc on a donc 1,85 million de chômeurs indemnisés par les ACEDIC à la fin de l'année 2006 et un chiffre à peine supérieur, 2,17 millions de chômeurs. Ça, c'est le chiffre qu'a donné le gouvernement lors de la publication des chiffres. Donc on pourrait se dire qu'il y a finalement une très grande majorité de chômeurs qui perçoivent une allocation, parce que ça représente plus de 85% des demandeurs d'emploi, de la statistique officielle, disons, du chômage. Et en réalité, quand on regarde les chiffres de l'UNEDIC, on constate que moins de la moitié, précisément 47,5% des chômeurs, sont indemnisés à la fin de l'année 2006. Tout cela pourquoi ? Parce que, en fait... l'UNEDIC, dans son calcul, bien sûr, prend en compte les chômeurs qui sont indemnisés dans le cadre du régime d'assurance au numérateur, mais au dénominateur intègre l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à la NPE. Et comme on l'avait montré dans notre première note, le chiffre est bien plus important, quasiment le double, si on prend ce dénominateur. Donc moins d'un chômeur sur deux aujourd'hui indemnisé. Et cette proportion a fortement chuté depuis 2003, c'est ce qu'indique le premier graphique de la note. Hein. En valeur absolue, on a une baisse, en valeur relative, on a une baisse de près de 19% entre fin 2003 et fin 2006. Ça veut dire que plus de 430 000 chômeurs en moins ont été indemnisés entre ces deux dates, alors que le nombre d'inscrits à la NPE, lui, n'a baissé que de 8%. La conséquence, c'est que le taux de couverture par l'assurance chômage est passé, donc, encore une fois, entre fin 2003 et fin 2006, de 54% à 47,5%. C'est le niveau le plus bas observé depuis 5 ans. Alors, vous avez dans le graphique une rétrospective un peu plus longue qui montre qu'il y a eu des hauts et bas. Mais on est vraiment sur un point qui est tout à fait bas aujourd'hui. On a le même profil, si je puis dire, concernant les données financières de l'UNEDIC, puisque elles aussi ont diminué entre 2004 et 2006. Les dépenses d'indemnisation, si on prend les chiffres donc, de l'UNEDIC, ont diminué de plus de 10%. Et si on rapproche ces deux données, le nombre de chômeurs indemnisés et la baisse des dépenses d'indemnisation, ça se traduit par une quasi-stagnation sur les dernières années de l'allocation moyenne perçue par les chômeurs en pouvoir d'achat, une fois l'inflation déduite. Alors nous, on a retraduit ça en termes de SMIC horaire brut pour voir ce que représentait à peu près l'indemnisation moyenne par rapport au niveau du SMIC. Et vous voyez que aujourd'hui, c'est un peu plus de 120 SMIC horaires. Oui, c'est plus en euros, heureusement, pour les chômeurs. Ce qui représente environ 80% d'un SMIC mensuel à temps complet. Donc un niveau qui reste faible. Alors, on a peu d'informations sur la façon dont se distribue, en quelque sorte, le niveau de ces allocations, mais des travaux qui avaient été réalisés il y a quelques années avaient montré que la proportion de chômeurs qui percevaient moins d'un demi-SMIC avait très fortement augmenté entre le début des années 90 et 97. Il était passé de moins de 15% à plus de 35%. Et on peut penser, au vu des évolutions récentes... donc là, j'en profite pour vous signaler que vous avez une fiche sur l'historique de l'indemnisation du chômage, la fiche numéro 1, qui est très complète, qui retrace toute l'évolution de la réglementation concernant l'indemnisation du chômage. Et on peut penser donc, en vue des évolutions récentes, que cette proportion est au moins aussi importante aujourd'hui, c'est-à-dire entre 30% et 40% des chômeurs probablement ne perçoivent moins d'un demi-SMIC, évidemment, lorsqu'ils sont indemnisés, puisque ça ne concerne bien sûr que les chômeurs qui perçoivent une indemnisation. Si on s'intéresse maintenant aux différences de couverture selon différents critères, j'allais dire sans grande surprise, on constate qu'à la fois les jeunes, les femmes et les salariés les moins qualifiés perçoivent relativement moins l'allocation chômage que les autres catégories de salariés. Leur taux de couverture est plus faible. Alors ça ne tient pas à une discrimination évidemment spécifique à leur regard, ça tient aux règles de l'indemnisation du chômage qui, compte tenu maintenant de la multiplication des filières d'indemnisation et des critères de perception d'allocation qui sont de plus en plus, qui exigent des durées d'emploi de plus en plus longues. Donc ces catégories, les jeunes, les femmes, les salariés les moins qualifiés, occupent davantage d'emplois précaires, des durées d'emploi plus courtes, et donc sont moins éligibles à l'assurance chômage que les autres catégories de salariés. Donc vous avez deux graphiques, page 4, qui présentent les taux de couverture entre hommes et femmes à différents âges. Donc vous voyez que quel que soit l'âge, les femmes perçoivent moins souvent l'allocation chômage que les hommes. Et vous constatez aussi que l'écart entre les cadres et les professions intermédiaires d'une part et les ouvriers et les employés d'autre part est relativement important, de l'ordre de 10 points dans le taux de couverture. Alors ces chiffres sont issus de l'enquête emploi. Contrairement à ce qui est indiqué dans la note, on peut, à partir des données d'UNEDIC, avoir notamment des différences de taux de couverture selon le sexe, mais on a préféré avoir une source homogène, disons, pour établir ces graphiques. L'idée, c'est simplement de montrer qu'il y a des différences importantes, donc selon qu'on est jeune, femme ou le type d'emploi qu'on occupe. Donc moins d'un chômeur sur deux, ça signifie que, monsieur de la Palisse l'aurait dit, plus d'un chômeur sur deux est exclu d'indemnisation du chômage. Alors qu'est-ce qui se passe pour ces chômeurs qui ne bénéficient d'aucune indemnisation? Ils sont très peu rattrapés par d'autres filets de protection sociale. 10% des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire 20% des exclus, si vous voulez, de l'indemnisation, perçoivent une allocation dite, du régime dit de solidarité. Donc je les énumère brièvement, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation d'insertion qui vient d'être remplacée par l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalente de retraite. Alors, le niveau de ces prestations est beaucoup plus faible que celui de l'indemnisation moyenne des chômeurs qui perçoivent une indemnité dans le cadre de la CEDIC. Quelques chiffres. Le montant de l'allocation de solidarité spécifique, qui est un montant journalier, représente aujourd'hui 1,75 SMIC horaire. C'est-à-dire que pour une journée, un chômeur qui perçoit de l'ASS reçoit l'équivalent de moins de 2 heures de SMIC. Et pour une personne qui perçoit l'allocation d'insertion, c'est 1,23 heures de SMIC, c'est-à-dire un peu plus d'une heure de SMIC pour vivre par jour. Ça vous donne une idée de la faiblesse de ces allocations. L'autre chose qu'il faut signaler, c'est que depuis 20 ans, le niveau de ces allocations a considérablement décroché de toutes les normes qu'on peut avoir en tête, que ce soit le SMIC, le niveau de moyen ou l'allocation moyenne. Alors par rapport à l'allocation moyenne, il y a 20 ans, l'allocation de solidarité spécifique représentait plus de 60% d'indemnité perçue par les chômeurs assurés dans le cadre du régime d'assurance chômage, et c'est moins de 50% en 2006. On a une baisse tout aussi considérable pour l'allocation d'insertion, qui représentait plus de 50% de l'indemnité assédique moyenne en 1986, et aujourd'hui c'est moins de 35%. Donc vous avez dans la fiche numéro 3 quelques graphiques qui retracent sur les 20 dernières années justement l'évolution de ces différentes prestations en pourcentage du SMIC horaire brut. Donc je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais on voit très nettement, à part l'épisode, j'allais dire, consécutif plutôt au mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98, qui avait permis de revaloriser, enfin de remonter, disons, l'allocation de solidarité à son niveau de la fin des années 80, on voit que la baisse s'est poursuivie ensuite, hein, que ce soit pour l'ASS, l'AI, l'allocation d'insertion. Alors, il reste un tout dernier filet pour les chômeurs qui n'ont pas d'assurance, qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage et qui ne bénéficient pas d'une allocation dite de solidarité, c'est évidemment le RMI. Hein. Le RMI est encore à un niveau plus faible que l'ASS. Donc, pareil, vous avez le graphique qui, dans la fiche 3, vous donne le montant du RMI qui, de la même façon, a baissé de façon continue depuis sa création. Il représentait 68 SMIC horaires en 89 et c'est aujourd'hui 53 SMIC horaires par mois, hein, pour une personne seule aujourd'hui au RMI. Alors une autre précision qu'il faut apporter, c'est que c'est certaines de ces prestations, notamment l'allocation de solidarité spécifique, le RMI, sont accordées sous condition de ressources du ménage. Donc ce n'est pas un droit individuel du chômeur. Donc ça écarte un certain nombre de personnes qui malgré tout ne perçoivent aucune indemnisation. Et pour le RMI, il faut aussi signaler que l'âge auquel on peut percevoir le RMI en France est un des plus élevés d'Europe, hein, vous le savez, c'est 25 ans. Ce qui signifie qu'évidemment, quand on n'a pas atteint cet âge, on n'a quasiment aucune indemnisation. On n'a pas le droit au RMI. Et comme on l'a vu précédemment, de très nombreux jeunes sont exclus d'indemnisation du chômage, n'ont pas non plus d'allocation de solidarité, jusqu'à 25 ans, ils se retrouvent, eux, tout à fait sans filet s'ils sont au chômage. Donc la conséquence de cette régression de l'indemnisation du chômage et de cette érosion, de cette baisse même des allocations de solidarité, c'est que de plus en plus de chômeurs sont récupérés, de fait, par le dernier filet aujourd'hui de la protection sociale, qui est le RMI, et à la suite des réformes, enfin du protocole de l'UNEDIC, des plus récents protocoles UNEDIC, on voit que le nombre d'allocataires du RMI a fortement augmenté sur les dernières années. Donc vous avez le graphique, page 6. Le dernier point, c'est le point de septembre 2006, hein, on n'a pas encore celui de décembre. Bon, il y a une légère stabilisation, mais on voit que, grosso modo, le nombre de RMistes a quasiment jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc, moins d'un chômeur sur deux indemnisé, à peine 10% des demandeurs d'emploi qui sont éligibles à une prestation dite de solidarité. La conséquence, c'est que de plus en plus de chômeurs sont finalement obligés de travailler, d'apprendre des petits boulots pour arriver à boucler les fins de mois. Donc c'est ce que montre le graphique page 7. Hein, donc dans le jargon des statistiques ANPE, ce sont les chômeurs en activité réduite. Donc vous voyez que depuis une quinzaine d'années, la proportion de ces chômeurs en activité réduite a considérablement augmenté. Elle était de moins de 10% en juin 92 et elle a grimpé de façon continue jusqu'en 2001, s'est légèrement stabilisée et est repartie à la hausse. Là aussi depuis 2003 et aujourd'hui on est au niveau le plus élevé jamais observé. Grosso modo, un chômeur sur trois travaille chaque mois. Le dernier point, est-ce que tout cela fait exploser les dépenses sociales? Eh bien non, même si le chômage augmente, comme on l'a montré dans notre première note, et malgré les artifices statistiques, comme on l'a aussi montré dans la seconde note, il y a de plus en plus de chômeurs, mais les dépenses liées à l'indemnisation du chômage, au sens large, c'est-à-dire les dépenses d'indemnisation proprement dites dans le régime UNEDIC, plus les dépenses au titre des allocations de solidarité, plus les pré-retraites, sont sur une tendance à la baisse depuis 20 ans. Donc ça, c'est le graphique que vous avez, page 8. Alors, il y a des mouvements cycliques, parce que bien sûr, quand en période de récession, bon, il y a plus de chômeurs, donc les dépenses augmentent et les recettes se contractent. Il y a des mouvements cycliques, et c'est l'inverse qu'en période de reprise. Mais vous voyez que la tendance est très nettement orientée à la baisse. Donc, il y a de plus en plus de chômeurs. Je donne un chiffre pour situer les ordres de grandeur. Si on additionne l'ensemble des demandeurs d'emploi et des pré-retraités, aujourd'hui, par rapport à il y a 25 ans, la hausse a été de 55%. Et vous voyez que durant la même période, la part des dépenses de prestations chômage, donc encore une fois au sens large, a baissé. Donc là, le graphique n'est pas actualisé en 2006, mais très probablement, on serait à quelque chose de l'ordre de 1,6% du PIB, ce qui déjà, en valeur, en chiffre absolu, est tout à fait faible, mais encore une fois, avec une tendance à la baisse continue depuis 25 ans. Donc, vous avez dans ce dossier, je ne vais pas le commenter, mais je le signale, donc trois fiches. Une fiche qui présente un historique de l'indemnisation du chômage et qui montre comment, pas à pas, je vais dire, les droits des chômeurs ont été grignotés et dans certains cas, pour certaines catégories de chômeurs, sévèrement réduits. Donc c'est la fiche numéro 1. La fiche 2 qui présente, qui met en parallèle la statistique officielle du chômage et le nombre de chômeurs indemnisés. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, ça peut être trompeur parce que on a des évolutions très parallèles et des niveaux très proches, mais que ça n'a pas été le cas dans le passé. Ça renvoie évidemment à ce qu'on avait dit lors de notre première conférence de presse sur la montée de ces chômages qu'on a qualifiés d'invisibles. Et puis donc la dernière fiche que je vous ai déjà signalée, qui présente les prestations de solidarité, l'ASS, l'allocation d'insertion et le RMI, et leur évolution depuis une vingtaine d'années.
Voilà. Voilà, donc moi je veux juste souligner un point, c'est que sur la plupart des courbes, on voit à la fois sur le pourcentage de chômeurs indemnisés et sur les montants moyens, on voit une remontée à partir de 2001 qui est liée à la fin de la dégressivité, enfin à la convention UNEDIC de 2000, qui instaure la fin de la dégressivité des allocations et qui élargit, qui facilite l'accès à certaines catégories de chômeurs, notamment avec des courtes références de travail. Et donc cette réforme de 2001 a été l'occasion à la fois de lâcher un peu de lest sur l'indemnisation des chômeurs et puis surtout d'introduire le PAR, le plan d'aide au retour à l'emploi, et d'introduire tous les dispositifs qui sont montés en charge depuis maintenant 6 ans d'accompagnement entre guillemets des chômeurs. Donc, et comme nous l'avons montré dans notre note numéro 2, de pression renforcée sur les chômeurs pour qu'ils reprennent les emplois que les entreprises leur offrent aujourd'hui, même s'ils ne correspondent pas ni à leurs qualifications, ni à leurs aspirations. Et donc, on a eu donc cette amélioration provisoire, disons, qui est maintenant en cours d'être annulée, a été, si on peut dire, le prix à payer par le régime pour introduire ce contrôle renforcé sur les demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, donc, les réformes depuis 2003 sont revenues en arrière sur ces améliorations de 2000 et ont fait à nouveau baisser à la fois le pourcentage de chômeurs indemnisés et les prestations moyennes. Donc, si les collègues ont des compléments à apporter,
de l'MPE... Oui, ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que aujourd'hui, c'est pas que l'UNEDIC qui accentue le contrôle à travers effectivement le dispositif du PAR, c'est bien aujourd'hui à travers la mise en place des lois Borloo et le suivi donc individuel mensuel qu'on exerce aussi, et c'est l'État qui l'exerce, là, la pression accentuée. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'État et l'UNEDIC, main dans la main, pour faire des économies d'échelle, a renforcé effectivement ce contrôle. Et le prix à payer, il a été d'abord, effectivement, comme tu l'as dit, par la mise en place du PAR. Et aujourd'hui, l'accompagnement du suivi mensuel et le fait que l'État ait mis les moyens aussi pour accentuer ce suivi mensuel a permis de faire qu'il y a... de faire un intérêt commun entre l'État et l'UNEDIC aujourd'hui par rapport à l'État.
Moi, je veux bien juste parler des effets induits sur des constats de terrain.
Jean-Pierre,
donc, du MNCP. On s'aperçoit que tous les gens qui se retrouvent aux minima sociaux, donc RMI, ASS, donc déjà, ce sont des revenus, si on peut parler de revenus, soumis aux revenus du couple. C'est-à-dire qu'on croise souvent des situations de personnes qui se retrouvent avec rien en rupture. Alors on a eu souvent des gens à venir nous voir, ou une femme ou un homme dont le conjoint touchait suffisamment qui n'était plus ensemble, mais la procédure de divorce n'avait pas eu lieu. Donc des gens qui se retrouvent avec rien du tout comme revenu, vu que c'est soumis au revenu du couple. Les moins de 25 ans en rupture familiale, ça c'est aussi un phénomène de plus en plus fréquent. Donc des gens de moins de 25 ans qui n'ont pas accès au revenu du tout, donc qui se retrouvent souvent dans la rue. Et puis l'aspect donc RMI, revenu minimum d'insertion, aujourd'hui ça devient discriminant de passer par la case RMI, et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens formés, pas plus 2, plus 3, plus 4, passant par la case RMI, parce que c'est l'unique et dernière solution. Donc c'est un peu les effets induits de tout ça, quoi, et ça pose quand même un problème de fond.
Marc
Moreau,
je participe à la CAG, ensemble contre le chômage. Je voulais juste te rajouter deux petites choses. Une un peu ponctuelle à propos de cette année 2003 où les droits ont été bouclés. Rappelez que s'il y a eu cette forte occupation des droits, et notamment avec la suppression de la filière jaune à l'époque, qui concernait principalement les jeunes précaires, donc qui ont été exclus à ce moment-là de l'indemnisation, il y a eu en même temps des luttes importantes et relativement victorieuses, dont le bilan est attiré, mais d'une part les recalculés qui ont obtenu le fait que cette procédure de recalcul de droits ouverts soit illégale, et elle n'est toujours pas illégale, et MEDEF n'a pas gagné sur ce point-là. Et puis la question des intermittents, où ils ont réussi à gagner du temps, et à sauver les droits un certain temps, et aussi à faire valoir l'idée d'un service, d'un droit à l'indemnisation pour toutes et tous. Et le deuxième point, c'était cette note illustre bien la crise du système d'indemnisation tel qu'il fonctionne actuellement, qui n'est pas du tout adapté à la situation de précarité que vivent les salariés. Et en conséquence, il y a donc nécessité de réformes de fond. Et alors, si ce n'est pas l'objet du débat, en même temps, on a l'impression qu'il manque des choses à l'extérieur sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais la crise du système de protection sociale des salariés en situation de chômage et de précarité est visible à travers les chiffres qu'on vous a rappelés. C'est un point important à mettre en œuvre.
Je crois qu'on ne peut pas manquer de faire le lien entre ce qu'on vient de présenter et la question de la très grande précarité, de l'exclusion, de ce qu'on a vu cet hiver avec les SDF. Enfin, il n'est pas possible de considérer qu'il n'y a pas de rapport entre le fait que ces filets de sécurité soient aussi troués et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue dans des situations inextricables. Donc, je crois qu'il y a vraiment un lien à faire assez direct entre ces phénomènes. On peut peut-être répondre à vos questions aussi.
Ce qu'il faudrait peut-être dire aussi, c'est que aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la précarisation du marché de l'emploi, et on n'a pas fait d'analyse tout à fait sérieuse aujourd'hui de où on en est. Et ce serait effectivement extrêmement intéressant de le voir, parce que l'indemnisation a renforcé, et la régression de l'indemnisation a renforcé effectivement ce sentiment ou cette appartenance effectivement à une dégradation de la qualité de l'emploi. Et à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas de données suffisamment fouillées en la matière. Et ce qui est aussi dommageable, c'est que ces données n'étant pas suffisamment précises, ce qu'on peut dire, c'est que la précarisation, aujourd'hui, induit le fait que des gens auraient besoin, éventuellement, d'avoir des filets de secours supplémentaires. Par exemple, je vous rappelle juste un élément, l'UNEDIC, à un moment donné, il y avait des fonds sociaux à l'UNEDIC, aux ACDIC. Et ces fonds sociaux servaient effectivement à répondre au cas par cas à des difficultés ponctuelles. La réorientation de l'UNEDIC à travers l'activation, ce qu'on appelle des dépenses passives, c'est-à-dire de ne plus s'occuper, de ne plus prendre la totalité de ces fonds pour indemniser mieux, mais de prendre une partie de ces fonds afin effectivement soit d'accentuer par exemple la possibilité à des entreprises de type privé, on le voit avec ce qui s'est passé avec le suivi mensuel, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, on voit que peu à peu ce glissement entre indemnisation, non-indemnisation et indemnisation qui ne touche plus à l'indemnisation, on voit que les frontières ont été bousculées. C'est-à-dire entre ce que fait la NPE et ce que fait l'UNEDIC, aujourd'hui ces frontières se bousculent. Et c'est ça qui entre aussi en ligne de compte et qui précarise le marché de l'emploi et qui en même temps entraîne une indemnisation moins importante. C'est-à-dire que les fonds, par exemple, on parlait tout à l'heure des 2 milliards et quelques, c'est ça 2 milliards des excédents, à mon avis, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je suis presque persuadé qu'ils vont non pas essayer de remettre effectivement un calcul et une ouverture de droit plus juste, mais ça risque d'aller encore sur des expériences, effectivement, pour mettre en concurrence le service public de l'emploi tel la NPE. Et ces expériences conduisent à quoi, en réalité? À simplement prouver que l'UNEDIC est en train de changer de champ d'intervention. On parle aujourd'hui de la fusion aussi, et cette fusion, c'est aussi une idée qui est dans l'air du temps, mais pas forcément n'importe comment. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu...
Et vous parlez vous, justement,
comment,
par rapport à la fusion et votre position?
C'est pas peut-être l'objet du débat.
Non, en fait, c'est même pas ça qui a été décidé. C'est que les 2 milliards et demi d'excédents programmés pour 2007, au fait, ils vont être mis dans le fonds de garantie qui va enfin être créé. Ça fait 7 ans, 6 ans qu'ils attendent ça, qui est une espèce de fonds qui va être créé pour quand l'UNEDIC aura des difficultés de nouveau. Donc ça prouve peut-être qu'ils s'attendent à de nouvelles difficultés. Plutôt que d'avoir à emprunter sur le marché, ils vont se constituer une réserve avec l'argent excédentaire du moment qui sera mis dans ce fonds pour éviter d'emprunter plus tard quand de nouveau le régime sera en difficulté. C'était annoncé au conseil d'administration de l'UNEDIC la semaine dernière.
Enfin, à mon avis, c'est surtout un effet d'annonce, parce qu'ils vont surtout, ils sont obligés de rembourser,
Non, ils
la
sont
dette.
Pas obligés, ils ont négocié.
Ouais.
Non, ils doivent rembourser en 2011.
Non, je veux savoir, le fait que Bénédicte consacre moins d'argent à l'indemnisation, est-ce que par ailleurs, elle en consacre plus, c'est la question qui fâche, à l'accompagnement
À la formation.
Non, la formation.
On est là pour vous donner la contribution.
Les formations, elles sont réduites de plus en plus. Elles sont, globalement, elles sont de 4 mois. Donc, ça ne résout pas les problèmes de formation des chômeurs. Les coûts de formation sont beaucoup moins élevés depuis la réforme de 2005. Sont réduites. On a beaucoup plus de mal à avoir des formations. Tu l'as déjà dit l'autre fois.
La dernière fois.
Ouais.
Oui, ce que montraient les statistiques qu'on a publiées dans la dernière note, c'était que le nombre de sorties de chômeurs vers la formation avait considérablement diminué depuis 2005. Enfin, depuis 2004, pardon. Entre 2004 et 2006, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une baisse. Vous le retrouverez dans la note numéro 2. Il y a une baisse importante des sorties de chômeurs vers la formation parce que les formations ont été ciblées vers les métiers en tension, entre guillemets, et plus du tout vers des formations de requalification ou de reconversion des demandeurs d'emploi.
La question des formations, est très, très liée à la question de l'indemnisation dont on a parlé. C'est-à-dire, selon le régime d'indemnisation, c'est-à-dire selon qu'on touche l'allocation de retour à l'emploi ou la SS, les droits à la formation sont extrêmement différents. Et à partir de toutes les personnes qui sont exclues de l'ARE, c'est-à-dire du régime d'assurance chômage, ne peuvent pas avoir bénéficié de formation rémunérée. C'est-à-dire, c'est la CEDIC maintenant qui conventionne très majoritairement toutes les formations. Donc oui, la réduction des formations, les possibilités de formation des chômeurs sont liées très très directement, de façon organique, on pourrait dire, à la baisse de l'indemnisation. Plus ce que dit aussi M. Coutreau, c'est-à-dire que la nature même de ces formations a profondément changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de formation qualifiante de longue durée, mais les formations sont complètement orientées vers la remise à l'emploi rapide du demandeur d'emploi, quelle que soit en fait l'adaptation au poste de travail plutôt qu'une formation réellement qualifiée. Joseph Roman, du SNU ANPE.
Pour compléter peut-être sur l'accompagnement, il y a une étude Eurostat qui montre que si on cumule dépenses passives et actives, la France se situe très mal en Europe, au 13e rang derrière le Portugal, il me semble. C'est une étude que je n'ai pas réussi à retrouver, là, mais qui existe, et qui démontre par exemple que le Danemark met 2,5 fois plus de parts de PIB sur le chômage, mais en particulier l'accompagnement. En France, apparemment, notre carence principale, c'est l'accompagnement par rapport aux pays européens.
Enfin, l'indemnisation.
Et l'indemnisation,
bien sûr. Est beaucoup plus élevé qu'en
bien
France.
Bien sûr, bien sûr. Mais la part du PIB accordée au chômage est très en deçà.
Derrière la moyenne de l'indemnisation, enfin l'indemnisation moyenne, est-ce que vous avez une idée de qui touche cette moyenne, qui est très en dessous et par rapport à l'ensemble des chômeurs indemnisés? Est-ce que vous savez comment ça se ventile? Est-ce que la moyenne, elle concerne la majorité des chômeurs indemnisés ou
Non, on sait qu'il y a une forte dispersion autour de cette moyenne. Donc le chiffre qu'on a donné dans la note, là, mais qu'on n'a pas... Et qui était assez difficile, enfin, on peut reprendre, et on n'a pas fait ce travail de façon très détaillée. Et il y a, dans les publications régulières de l'UNEDIC, des distributions d'allocataires selon les montants perçus. Et le chiffre donc qu'on avait en 97, c'était environ 35% des chômeurs qui indemnisés, donc qui percevaient moins d'un demi-SMIC, et tout laisse penser qu'aujourd'hui ce chiffre est au moins aussi élevé. Donc ça vous donne une idée. Donc la moyenne c'est 80%. Ça veut dire aussi qu'il y a effectivement des chômeurs qui perçoivent des niveaux évidemment d'indemnisation supérieurs à cette moyenne, mais dans la durée et même de façon détaillée, on n'a pas énormément d'informations. C'est d'ailleurs un point sur lequel l'UNEDIC publie peu de choses. Ce qu'avait montré un travail qui avait été fait à l'IRES il y a quelques années, c'était que entre la fin des années 70 et la fin des années 90, il y avait eu, à la suite des changements réglementaires successifs, des divergences importantes entre certaines catégories de chômeurs. Donc c'était une étude qui reprenait des cas types. Donc je crois qu'on donne dans la note numéro, dans la fiche plutôt, numéro 1, un exemple qui illustre bien le décalage. Ça devrait être page 12. Page 12. Donc l'exemple d'un chômeur de 40 ans payé au SMIC, donc les droits d'indemnisation d'un chômeur de 40 ans payé au SMIC avant son licenciement ont chuté de 21% entre 79 et 87, alors que les droits d'un chômeur du même âge mais payé 4 fois le SMIC ont augmenté de 20%. Donc il y a eu des choix qui ont été faits effectivement à la suite des conventions, des protocoles successifs, qui ont été des choix très opaques et qui, effectivement, dont les conséquences sont mal évaluées, notamment de ce point de vue-là. Mais malheureusement, on n'a pas pu lever ce voile de façon tout à fait satisfaisante.
Vous voulez dire que l'indemnisation des cadres chômage est taboue en France?
On n'a pas beaucoup de comparaisons, mais effectivement, si on... Enfin, Marc, tu veux peut-être...
J'avais envie de réagir sur le fait que l'indemnisation des chômages en France, des cadres au chômage en France, c'est peanut, c'est pas un gros problème. Je crois que la moyenne est très proche de la médiane. En gros, la plupart des gens sont indemnisés largement en dessous du SMIC. Et à tel point que je ne me souviens plus comment la CEDIC avait réglé le problème, mais ils avaient sorti des statistiques à un moment donné où il y avait les salariés ayant travaillé à mi-temps, enfin à temps partiel, et les salariés ayant travaillé à temps plein. Puisque, bien sûr, la précarisation concerne beaucoup toutes ces personnes qui travaillent à mi-temps, à temps partiel, et on sait que c'est une population importante, hein, le nombre de postes de travail est en face, le nombre de personnes qui circulent sur ces postes de travail, et ça fait beaucoup de monde. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui n'est pas pris en compte, hein, parce que sur un temps partiel, on se retrouve avec vraiment des allocations mises. On peut éventuellement avoir un complément de revenu, mais il suffit de vivre en couple pour pouvoir avoir ces revenus. La réponse n'est pas précise, mais il me semble que la question des cadres, finalement, bon, ils ont leur système, ils tournent avec sur les postes, enfin, c'est peanuts, quoi. Par contre, le problème, c'est tous ces gens qui se retrouvent avec très peu de revenus. Et ce que tu indiquais sur la partie inférieure, la partie du SMIC, on est dans des situations d'exclusion. Le système ne protège pas l'exclusion.
C'est justement, c'était une question que je voulais poser, parce que vous avez parlé en soulevant ce problème d'écart en fait, entre les différentes catégories professionnelles face à l'indemnisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire le jeu de ceux qui veulent remettre, par exemple, la dégressivité sur les indemnisations des cadres et quelque chose auquel partie des gens qui siègent à l'UNEDIC enfin, réfléchissent pas
vraiment. La dégressivité,
ouvertement, mais... J'estime que, en gros, les cadres sont trop indemnisés et qu'ils prennent trop de temps pour rechercher un emploi. Voilà, je résume.
La dégressivité ne touche pas que les cadres. Touche pas que les... Malheureusement,
oui, la fin de moyenne.
Elle touche principalement,
d'ailleurs, quand on salaire réel de 50
ans. Elle touche encore plus, c'est-à-dire qu'on passe de très peu à peanuts, comme tu disais. Et bon, ce que je voulais aussi soulever, c'est que cette dispersion de l'indemnisation... une incidence non seulement financière sur le niveau de vie des personnes qui sont bénéficiaires, mais aussi est très préoccupante par rapport au principe de service public, par rapport au traitement, à l'accompagnement des chômeurs. C'est-à-dire que ce qu'on observe maintenant, c'est que, en parallèle par rapport aux filières d'indemnisation du chômeur, on assiste dans la NPE à une mise en place de parcours des demandeurs d'emploi, trajectoires de demandeurs d'emploi qui sont traités différemment selon en fait la distance la distance par rapport à l'emploi recherché et en fait la distance elle se mesure mais elle se matérialise aussi par le niveau de l'indemnisation. C'est-à-dire les chômeurs qualifiés qui ont le plus de chances de retrouver rapidement un emploi, ils se trouvent de fait favorisés, y compris dans leur suivi, ils ont plus de moyens, ils ont plus de... ils sont mieux suivis, on pourrait dire, par la NPE, ils sont dans le parcours 1 qu'on appelle la NPE, donc ils sont bénéficiaires par rapport aux exclus, enfin ceux dont on fait le diagnostic qui vont tomber probablement dans le chômage de longue durée. Donc on a même, c'est même plus le respect des règles d'égalité de service public, c'est même le contre-pied, on pourrait dire. C'est-à-dire que les mieux lotis sont les mieux suivis. Ou même, on pourrait dire, les moins bien lotis sont encore plus mal suivis.
Profil d'âge.
Par rapport à cette question, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Là, les graphiques dont vous parliez, c'est le taux de couverture. Hein, et je pense que c'est... Et puis, il y a le niveau d'indemnisation. Je pense que la couverture en France, elle est faible. Hein, en comparaison de la plupart des pays européens, moins d'un chômeur sur deux indemnisé, c'est un taux très très faible. Et qui, encore une fois, s'est dégradé fortement depuis 3 ans. Donc là, il n'y a pas de raison de dire... Ça tient simplement à l'évolution des règles d'indemnisation qui pénalisent justement les emplois précaires. Et comme ces emplois précaires se développent, ça fait boule de neige. Évidemment, ça se concentre sur cette catégorie, les jeunes, les moins qualifiés, les femmes. Donc là, j'ai pas l'impression que la note fasse le jeu de quoi que ce soit. Elle établit bien un constat qui est assez dramatique, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'au contraire, il serait assez logique que tous les chômeurs cotisants aient droit à une indemnisation au chômage. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Donc c'est peut-être la première chose qu'il faut rappeler. La seconde, c'est que vous disiez... bon, on va raboter les allocations les plus élevées. Bon, on est toujours dans cette même logique sur la protection sociale en général, c'est-à-dire dans une logique qui est de raisonner à budget constant ou à budget en régression. Évidemment, la seule façon de tenir dans cette logique-là, c'est de prendre aux uns pour éventuellement donner plus aux autres. En général, c'est même pas le cas. Les tentatives de plafonnement, enfin, je vous rappelle le plafonnement des allocations familiales, par exemple, en 97, il ne s'agissait pas de redonner davantage aux autres, c'est simplement de faire des économies. Donc, on peut penser, et à juste titre, que ça ne sera jamais qu'un paravent pour justifier des nouvelles régressions. Le chiffre, quand même, de la moyenne, qui est une moyenne, et bon, Marc peut rappeler que la plupart des gens sont en dessous de cette moyenne, quand même, 80% du SMIC, on ne peut pas penser non plus que c'est quelque chose de considérable comme niveau d'indemnisation. Donc je pense que c'est par rapport à ces deux réalités, moins d'un chômeur sur deux indemnisé, à peine 80% du SMIC en moyenne lorsqu'on est indemnisé, qu'on peut vraiment poser la question d'indemnisation du chômage et pas en essayant de trouver des faux arguments pour sacrifier les uns au motif de donner un petit peu plus aux autres.
Vous avez évoqué tout à l'heure la situation en termes d'indemnisation des jeunes, des femmes qui n'ont pas assez travaillé pour être indemnisées et des moins qualifiées. Est-ce qu'on a une idée précise de l'évolution du nombre justement de jeunes, de précaires, de moins qualifiés, de femmes, l'évolution du nombre sur les dernières années qui n'ont pas assez travaillé pour être indemnisées?
C'est 10% des chômeurs indemnisés qui sont pris en charge par les systèmes d'assistance.
10% de l'ensemble des chômeurs sont pris en charge par des systèmes d'assistance.
Au moment des recalculés, c'était plutôt 53% des chômeurs qui étaient indemnisés par l'assurance chômage, et on avait appris qu'à l'époque, 34%, je crois, 17%, les gens étaient sauvés par les régimes. C'est-à-dire que les deux ont baissé depuis, et si on
serait... Parce que la difficulté, c'est que certains jeunes ne sont pas inscrits à la NPE, certaines femmes non plus, certains jeunes ne sont pas bénéficiaires des minima sociaux, comme vous l'avez dit. Du coup, est-ce qu'on a une idée de cette masse de gens sur une longue période qui n'a pas assez travaillé, compte tenu du développement des activités réduites, pour prétendre à l'indemnisation?
Mais ça, c'est une vraie question, parce que le taux de couverture, il est calculé par rapport aux gens qui sont inscrits à la NPE. Or, traditionnellement, il y a un volant, je crois que c'est de l'ordre de 800 000 demandeurs d'emploi environ, qui ne sont pas inscrits à l'NPE, qui sont chômeurs au sens du BIT, qui ne sont pas inscrits à l'NPE. Donc ceux-là, effectivement, ne sont pas inclus dans le taux de couverture. Hein. Si on les incluait, ça ferait encore baisser considérablement ce taux de couverture. Et puis en plus, ce qui se passe depuis quelques années, comme on l'a montré dans la note numéro 2, c'est que le taux d'inscription à l'NPE, le taux d'inscription des chômeurs à la NPE a probablement tendance à diminuer. Donc si on intégrait cette dérive, c'est-à-dire si on corrigeait en tenant compte du fait qu'un nombre croissant de chômeurs ne s'inscrit plus à l'NPE, le taux de couverture baisserait encore par rapport à ce qu'on a là. Le 47,5% serait encore plus bas si on prenait en compte ce phénomène hein, d'évasion, disons, des chômeurs devant la NPE. Donc c'est vrai que les statistiques dont on dispose à l'heure actuelle sont très incomplètes et qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de la part de l'UNEDIC pour cerner plus précisément ces phénomènes.
C'est d'autant plus vrai que pour les jeunes, par exemple, passent en général par les missions locales. Donc, ils sont suivis par la mission locale qui prend un dispositif global, logement, etc. Et quand ils trouvent aucune possibilité autre que cet accompagnement, ils ne vont pas s'inscrire donc à la NPE, c'est ce qu'on disait précédemment. Donc il y a une évaporation forte de ces jeunes qui se retrouvent dans des situations où ils vivent d'une assistance. En général, les missions locales sont régies soit par la ville hein, qui s'occupe ou par le département, ça dépend effectivement du fonctionnement, comment il est établi. Mais ça veut dire qu'une partie de ces, une grande partie de ces jeunes sont complètement, n'ont pas de ressources et n'appartiennent pas même effectivement aux statistiques du chômage, comme disait aussi. Mais moi je voudrais revenir à un autre élément. Tout à l'heure, ce qui a été dit, c'est que
plus on précarise le marché de l'emploi, moins on indemnise, plus on fait pression sur l'ensemble des salaires. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène effectivement qui s'inscrit, qui est tout naturel, celui de la peur. Le marché est flexible, très flexible, courte durée, etc., mission. On indemnise de moins en moins, avec un halo effectivement de gens qui ne sont pas comptabilisés dans ceux qui seraient indemnisés par un taux de couverture, donc moins. Et ça, ça joue effectivement sur les augmentations de salaire. Les augmentations de salaire, ça compresse les augmentations de salaire. Les augmentations de salaire, qu'est-ce qu'elles font? Si on prend le cercle vertueux, normalement, elles créent du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat crée des emplois. Donc on va à l'encontre, effectivement, d'un phénomène qui est tout à fait classique, en agissant de la sorte.
Catherine, monsieur Leibe, moi, ce que je voulais rajouter, quand on fait une comparaison européenne, il faut quand même insister pour dire que ces politiques-là, c'est des politiques concertées à l'échelle européenne, quand même, la baisse des allocations chômage, que ce soit par les obstacles à l'accès, à la durée, à la couverture, c'est une politique concertée au niveau européen, la stratégie européenne de l'emploi, ça a été discuté par tous les pays. Alors, qu'il y ait des différenciations selon les pays, c'est bien possible, encore que, on l'a évoqué la dernière fois, il y a des pays où il y a des gens qui basculent dans la catégorie invalide, et donc, par rapport à la couverture, je pense qu'il faudrait voir de peu près réellement la situation dans les autres pays européens. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement mieux qu'en France. Et même des pays comme la Suède, qui est toujours invoquée comme un exemple de référence, et bien néanmoins, en Suède, il est question de revenir sur ces allocations qui sont montrées comme avantageuses. Ils sont en train de discuter de remettre en cause ces avantages-là. Donc il y a quand même une tendance lourde et une politique européenne qu'on retrouve dans tous les pays, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, enfin bon. Donc moi je pense qu'il faut le redire assez souvent pour montrer que tout ça est logique. Et je signale aussi un danger quand même, c'est une volonté. Globalement, c'est le problème de transférabilité des charges sur l'État, donc sur les contribuables. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelque temps Laurence Parisot du MEDEF, qui elle, à un moment donné, a évoqué par rapport justement à cette couverture chômage. Elle a parlé, je ne sais plus si c'était de couverture universelle ou de revenu universel, je ne sais plus quelle expression elle a employée, mais très nettement, il va y avoir une pression de plus en plus forte pour faire transférer les charges sur l'État par rapport à l'indemnisation chômage. Donc, évidemment, dédouaner la responsabilité du patronat sur ces histoires d'indemnisation. C'est-à-dire qu'il y a une logique forte, il y a une pression qui va s'exercer pour continuer à diminuer les droits des chômeurs, que ce soit bon, en termes d'accès, de durée, de couverture. Ça, c'est clair qu'il y a une volonté de transférer des charges sur le salariat, quoi, en quelque sorte. Hein, parce que c'est sur l'État, c'est sur nous, globalement. Donc l'affaire ne va pas s'arrêter là et il ne faut pas s'imaginer qu'il y aura des améliorations dans les années à venir par rapport à ces couvertures, la couverture chômage.
Peut-être que la question qui se pose là, par rapport à la dernière question, c'est la question de comment on sécurise les parcours. C'est une question qui est aujourd'hui dans l'air du temps. C'est-à-dire entre ceux qui veulent mettre plus de flexibilité et d'assurer une forme de sécurité, et ceux qui veulent une vraie sécurité professionnelle. C'est-à-dire le débat sur l'indemnisation, il conduit aussi une réflexion sur ces deux approches, il me semble.
Donc, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, on vous signalait que la prochaine note du collectif portera sur, justement, les indicateurs alternatifs en matière de chômage et de précarité. Donc, ça sera fin mars. On va dire peut-être un mot sur la question de l'enquête emploi et de la question du taux de chômage BIT. Donc, vous trouverez sur le site de la CDC la lettre ouverte, je vous en avais une copie, la lettre ouverte que nous avons envoyée au directeur général de l'INSEE, M. Charpin, il y a 15 jours. Depuis, nous avons reçu une réponse donc, de M. Charpin qui nous signale qu'il maintient sa décision de ne pas recaler le taux de chômage BIT sur l'enquête emploi, et que néanmoins, lors de la réunion de la formation emploi-revenu du CNIS, donc le Conseil national de l'information statistique, le mi-mars, l'INSEE présentera d'une manière détaillée. Alors, la phrase, je vous cite la phrase du directeur général de l'INSEE parce qu'elle est un peu ambiguë. Cette réunion sera l'occasion d'expliquer de manière détaillée, une fois les résultats annuels de l'enquête emploi 2006 connus, les raisons qui conduisent l'INSEE à reporter ce calage. Alors, je ne sais pas connu de qui, c'est-à-dire je ne sais pas qui aura connaissance des résultats de l'enquête emploi 2006. Est-ce que c'est seulement les experts d'INSEE ou bien est-ce qu'ils seront publiés? Monsieur Charpin est ambigu dans son courrier. On peut quand même espérer que ces résultats seront présentés lors de cette réunion du 8 mars et que donc on nous connaîtrons le taux de chômage au sens du BIT mesuré par l'enquête emploi pour 2006. Et ça, c'est quand même un souhait qu'on peut exprimer aujourd'hui publiquement, parce que la réponse de M. Charpin est ambiguë. Quoi qu'il en soit, nous considérons que le maintien, disons, alors ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre, hein, jusqu'à l'automne, c'est que tous les mois, l'INSEE va publier un taux de chômage BIT qui ne tiendra pas compte des résultats de l'enquête emploi 2006 et qui évoluera comme les chiffres de la NPE, hein, puisque c'est ce taux mensuel du chômage BIT, il est indexé sur les résultats de la NPE. Donc jusqu'à l'automne, nous continuerons à avoir un taux de chômage officiel calculé et publié par l'INSEE, un taux de chômage BIT qui ne tiendra pas compte des résultats de l'enquête emploi d'INSEE et qui continuera à suivre les résultats affichés par la NPE. Donc nous ne sommes évidemment pas du tout d'accord avec cette décision maintenue de l'INSEE. Nous considérons que puisque si l'INSEE a des doutes sur la qualité de son enquête, bon, c'est son droit, mais continuer à publier ce taux de chômage BIT indexé sur les résultats de la NPE, alors que nous estimons que ces chiffres de la NPE ne reflètent pas l'évolution réelle du chômage, ça nous semble une erreur de la part de l'INSEE, une erreur particulièrement dommageable en période électorale, où évidemment les citoyens sont en droit d'attendre la vérité sur les chiffres du chômage et sur le succès des politiques d'emploi menées depuis 5 ans. Je ne sais pas si les collègues de l'INSEE veulent ajouter quelque chose.
Voilà, je ne vais pas rajouter grand-chose. Bon, nous, donc Ludovic Bourlès de la CGT de l'INSEE, bon, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de la transparence, hein, c'est que donc les éléments qui ont conduit l'INSEE à prendre cette décision soient rendus publics, et largement publics, hein, que d'autres chercheurs, des universitaires, etc., puissent travailler sur ces chiffres-là. Nous demandons qu'on ne se satisfait pas de cette décision du report jusqu'à l'automne du rebasage. L'INSEE doit pouvoir prendre en compte au moins un certain nombre de résultats de l'enquête emploi. L'INSEE est en train de calculer l'effet des mesures de gestion de la NPE, l'effet des radiations, l'effet de toutes ces choses-là. Donc l'INSEE doit aussi se servir de ça, et donc l'INSEE doit au moins corriger sa série, son calcul actuel du taux de chômage, pour en publier un qui soit le plus proche possible de la réalité. Bon, si l'INSEE a besoin de mettre une marge d'erreur, de dire qu'il y existe une marge d'incertitude, c'est pourquoi pas. Mais poursuivre la tendance là comme si rien ne se passait, c'est pas acceptable. Bon, oui, voilà, mais je peux répondre aux questions. Hein,
Est-ce que ton lycée a calculé officieusement un taux de chômage?
Pas à ma connaissance. Ceci dit, nous, on espère bien quand même que le taux de chômage issu de l'enquête emploi sera calculé. Hein. C'est quelque chose qui a été calculé et qui, tous les ans, à chaque fois que les résultats de l'enquête emploi étaient connus, synthétisés, etc. Donc il y avait une publication, une jolie publication avec un bel en-tête et tout. Bon, si cette année, l'INSEE décide de ne pas faire exactement la même publication, pourquoi pas, mais au moins que tous les éléments qui étaient publiés d'habitude soient mis à disposition quelque part, hein, à la disposition des utilisateurs, même si, bon, une marge d'incertitude plus élevée que d'habitude fait que, bon, il faut être plus prudent, certes, néanmoins, que ça soit rendu public quelque part, bon, pas forcément sur une jolie publication avec, ça peut être, je sais pas, sous la forme d'un document de travail, une note, bon, je sais pas, hein, quelque chose qui soit pas une publication stricto sensu, disons, hein, mais il y a des formes qui peuvent être adaptées, et on demande à ce que tous les éléments qui sont d'habitude publié, soit cette fois-ci publié. Alors publié d'une façon spécifique, d'accord, mais publié. Et en tous les cas, l'INSEE, en ce moment, puisque quasiment sans doute toutes les la collecte des données est finie, les choses sont en train de remonter, etc. C'est certain que l'INSEE commence à avoir les éléments pour calculer un taux de chômage issu de l'enquête emploi 2006. Quoi. Mais est-ce qu'ils l'ont fait là déjà aujourd'hui
Je pense
ils ont les moyens de le faire, en tous les cas. Parce que les chiffres sont remontés.
Le 8 mars, on en saura
oui.
davantage.
Oui, on attend beaucoup du 8 mars.
Le 8 mars, c'est une date importante. Pour,
toujours été une date
importante. Voilà. Ben, t'as raison, le 8 mars, c'est très important.
On s'invitera.
Parce que le CNIS, c'est pas très grand public.
C'est pas grand public, mais les partenaires sociaux sont dedans.
Les associations, les associations de famille, par exemple, les associations de consommateurs. Bon, je sais pas. Enfin, voyez. Oui, non, mais je veux dire, c'est assez large. Hein.
Il y a des... Normalement, en réunion du CNIS, elles sont ouvertes à tous, à condition d'en faire la demande. Enfin, bon, alors, il n'y a pas la foule, à toutes les réunions.
Oui. À titre personnel, j'ai demandé à y aller. Mais je pense que un citoyen ou un journaliste.
Les journalistes peuvent demander à y aller.
Voilà. Je pense qu'ils ont d'ailleurs prévu une salle un peu plus grande sur le 8 mars.
Voilà. Si vous allez sur le site du CNIS, vous aurez toutes les références.
Sur votre site aussi. Oui.
Donc, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que par rapport à notre note numéro 2, donc, le gouvernement a contesté notre diagnostic et a dit qu'il n'y avait pas de changement significatif dans les modes de gestion et dans le calcul des statistiques de la NPE. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont publié aucune étude jusqu'à présent expliquant l'augmentation du taux de sortie des listes de la NPE. Donc, on nous a contredit sur notre constat, mais on n'a pour l'instant pas d'études chiffrées qui évaluent et qui montrent que ce que nous avons dit n'est pas vrai. Nous n'avons pas d'études qui permettraient de dire que le changement des modes de gestion des demandeurs d'emploi par la NPE a eu un impact négligeable sur le nombre d'inscrits. Alors pourtant, ces études, évidemment, la NPE, l'INSEE et le ministère du Travail les font, ou les ont faites. Donc on peut s'interroger pour savoir pourquoi ces études ne sont pas publiées et pourquoi nos constats ne sont pas infirmés par des études chiffrées.
On se souvient du terme employé par le Premier ministre pour qualifier les travaux...
Moisissure.
Champigny. C'est
un élément du débat.
Pas encore halluciné.
Voilà, si vous avez d'autres...
Non, c'est une petite pub, parce que je suis journaliste. Parce qu'au niveau de la NPE, il y avait 8 organisations syndicales qui m'ont proposé une conférence de presse pour vous parler du changement de statut de la NPE avec un projet de décret qui notamment introduit la possibilité pour la NPE de créer des filiales de droit privé. Et on sait ce que ça veut dire pour les services publics quand ça commence comme ça, et notamment pour les chômeurs. Donc voilà, c'était pour vous dire que incessamment sous peu, vous aurez entendu parler de la NPE sous cette forme-là.
Il y a une conférence de presse demain qui devait être reçue de toutes les organisations syndicales. Qui était prévue initialement à 11h. Alors on avait prévu de décaler demain à 17h au même lieu, mais les quelques journalistes qu'on a vus à la sortie disent que 17h c'est très très mal. Choisi pour deux raisons, c'est-à-dire que l'embargo sur certains sujets à 17h. Et il y a aussi une conférence de presse de Renaud Billancourt.
Ayez ça dans la tête, parce que ça a quand même un lien avec tout ce qu'on raconte ici.
Oui. Donc ça sera le même, et l'heure va probablement changer. Je pensais qu'on envoyait à l'AFP l'heure. Vous pouvez rester en alerte pour demain.
Ça va changer.
Oui, ça c'est peut-être pas 11h. C'est demain au même lieu, mais l'heure va probablement changer.